vision du dépôt de ces deux budgets, nous avons invité deux économistes aux visions bien différentes, Youri Chassin et Pierre Beaune, pour qu'ils nous parlent de leurs attentes et des choix qui s'offrent au gouvernement en cette période d'insécurité économique. La discussion s'est déroulée vendredi au Café des Lettres de la Grande Bibliothèque à Montréal. Alors, messieurs, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente d'abord Monsieur Youri Chassin. Il est économiste à l'Institut économique de Montréal, un organisme qui analyse et commente les politiques publiques au pays. Vous me corrigerez si je me trompe, et dont les membres se situent à droite d'un point de vue économique. On peut dire ça comme ça?
On peut dire ça comme
D'accord.
ça.
D'accord. De son côté, Pierre Beaune est économiste à la CSQ. C'est la centrale des syndicats du Québec qui représente plus de 190 000 membres, principalement du secteur public. Et donc, vous l'aurez compris, à gauche économiquement. Monsieur Beaune, bonjour.
Bonjour.
Alors, commençons par le budget du Québec, si vous le voulez bien, étant donné que c'est le premier qui sera dévoilé le 20 mars prochain. Est-ce qu'on peut s'attendre à un budget électoral au Québec, à votre avis? Monsieur Beaune, peut-être, d'abord?
Bien, la situation financière du gouvernement du Québec est meilleure que ce qu'il avait lui-même prévu quand il a mis en branle son plan de retour à l'équilibre budgétaire cette année. Il avait prévu des déficits de 3,8 milliards, mais... Selon une étude récente de la Banque Toronto-Dominion, il va probablement finir l'exercice avec 2,8 milliards et l'année prochaine avec 450 millions seulement. Le gouvernement est donc confronté à un choix où il va essayer de serrer davantage la vis pour atteindre plus rapidement peut-être son équilibre budgétaire, ou alors il a le choix de desserrer un peu les taux, si je puis dire, puis laisser un peu d'oxygène aux services publics. C'est l'année la plus contraignante qui est prévue dans le plan, avec une croissance de 1,6%. On n'a pas vu ça depuis 15 ans. Donc, il y aurait la marge, à mon avis, pour desserrer un peu les taux sur les finances publiques à ce moment-ci.
Monsieur Chassin, quelles sont vos attentes face au budget du Québec?
Mais en fait, je pense pas que le gouvernement en fait ait tant de marge de manœuvre pour pouvoir offrir des bonbons électoraux. Et quelque part, c'est tant mieux. Effectivement, M. Beaune le soulignait, hein, les prévisions étaient assez sombres. Puis finalement, il y a un peu plus de revenus que prévu. Par contre, le gouvernement a de la difficulté à contrôler ses dépenses.
Voilà, c'est le grand défi, ça.
Exactement.
Finalement.
Et on a vu, donc, le vérificateur général l'a souligné que ça prendrait, dans le fond, un changement de direction assez drastique là, pour pouvoir récupérer cette croissance des dépenses. Le gouvernement a effectivement promis de faire 62 % de l'effort de retour à l'équilibre budgétaire par le contrôle des dépenses. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça va être très difficile d'y arriver. Quand on parle de contrôle des dépenses, là, on parle pas de coupure, on parle bien de croissance des dépenses, mais moins rapide
grand,
que
ouais,
prévu.
C'est voilà. Ça. D'ailleurs, le contrôle des dépenses pour un économiste de gauche, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'évidemment, s'il y a des dépenses, ça veut dire qu'il y a des services qui sont offerts à la population. Ce sont des choix de société, ça.
Oui, mais ce qui importe principalement, c'est de regarder c'est quoi l'équilibre budgétaire, les revenus au regard des dépenses, le rapport entre les deux. Et à cet égard-là, la situation du gouvernement est nettement meilleure que ce que lui-même avait envisagé. Je pense aussi qu'il faudrait que le gouvernement intervienne avec certaines mesures, qu'il... abandonne sa taxe santé de 200 $ qui est profondément inéquitable et qui la remplace par différentes mesures plus progressistes. Je pense par l'ajout d'un taux d'imposition pour les très hauts revenus, exactement comme au fédéral, ou encore un cocktail de mesures qui pourrait toucher davantage la fiscalité des entreprises qui, une à une, ne sont pas nécessairement onéreuses, mais qui pourraient générer des revenus. Je pense à un impôt minimum, à une réduction des déductions fiscales aux entreprises, des meilleurs retours sur les redevances pour les ressources naturelles, des réductions des économies dans les coûts des médicaments, ce genre de choses-là.
Monsieur Chassin, plus concrètement, quels sont les domaines qui seront particulièrement touchés, à votre avis? Par exemple, les personnes âgées. Bon, on s'attend à peut-être des mesures là, pour supporter les personnes âgées.
Oui, c'est possible, compte tenu des controverses qu'on a vues. Il y a la possibilité aussi d'avoir un régime volontaire d'épargne retraite.
Oui.
On en a entendu parler aussi. En même temps, puis c'est ça, je veux revenir un peu sur ce que M. Beaune disait, il faut faire la nuance entre déficit zéro et endettement zéro. Même quand on est en déficit zéro, on augmente la dette du Québec, qui est quand même rendue à 245 milliards de dollars, la dette du secteur public, c'est considérable. Donc là, évidemment, il faut s'attendre à ce que le gouvernement, peut-être, essaie de faire un effort pour améliorer sa situation, son bilan. Donc, pas simplement ses revenus et ses dépenses budgétaires, mais vraiment sa dette. Le poids de l'endettement, c'est considérable pour les contribuables qui paient de l'impôt. C'est au-delà de 60 000 $ par contribuable qui paie de l'impôt.
De quelle façon pourrait-il le faire concrètement, à votre avis?
Ben, en fait, la croissance des dépenses ces dernières années a été importante compte tenu de la récession. Il y a eu un plan de relance. Ça a augmenté les dépenses. Maintenant, il s'agit de retrouver l'équilibre budgétaire en contrôlant la croissance des dépenses, voire en réduisant les dépenses. Donc, en réduisant effectivement certains programmes, d'une part, il y a des programmes qui étaient censés être temporaires, et d'autre part, effectivement, en réduisant certains programmes qui peuvent être moins efficaces pour pouvoir, parce que l'argent n'est pas infini, pour pouvoir mettre ça soit dans des services plus efficaces, soit redonner à la population aussi.
Oui, monsieur.
J'aimerais peut-être apporter une correction à ce qui a été dit par M. Chassin. Quand le gouvernement établit l'équilibre budgétaire au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire, cela comprend un versement d'environ 1 milliard au fonds des générations qui va venir réduire le déficit accumulé. Le solde global du gouvernement à ce moment-là est en excédent de 1 milliard de dollars. Donc, la dette va être réduite à partir du moment où l'équilibre budgétaire est atteint.
Monsieur Bond, quand le ministre Bachand dit que les Québécois doivent faire leur juste part, comment vous réagissez à ce genre de déclaration?
Bien, moi, je suis d'accord pour que tout le monde fasse sa juste part. Les entreprises, on a vu les taxes de vente augmenter de 2 points de pourcentage au cours des deux dernières années, alors que les entreprises ne sont pas assujetties à la taxe de vente. Au moins, elles se font rembourser la taxe de vente qu'elles paient parce que c'est une taxe sur la vente, la valeur ajoutée. Alors, je pense que les entreprises aussi devraient être mises à contribution dans l'effort qui est exigé pour rétablir l'équilibre budgétaire.
Monsieur Chassin, ça vous a fait sourire, ma question
oui,
sur la juste part?
Parce que c'est évidemment un problème de définition. Comment définit-on juste? Et en fait, les contribuables font une énorme part. On sait, hein, le fardeau fiscal au Québec est parmi les plus élevés en Amérique du Nord. C'est considérable. Et puis, finalement, pour le gouvernement de demander aux contribuables de faire leur juste part, à ce moment-là, si on parle, par exemple, de tarifs, ben, il faut que ce soit fiscalement neutre, en fait. Il faut que, d'accord, on peut augmenter les tarifs, mais il faut qu'on réduise les impôts de l'autre côté. Parce que sinon, on en demande toujours davantage aux mêmes contribuables qui paient des impôts, des taxes, des tarifs.
Alors, le ministre Bachand aura donc à rédiger un budget dans des circonstances un peu difficiles. On le voit, la situation économique du Québec n'est pas la meilleure. Par contre, M. Flaherty, lui, est dans une position plus facile pour son budget.
Pas nécessairement. Oui. En fait, j'ai l'impression qu'au contraire, on cherche à ramener aussi là, le contrôle des dépenses budgétaires. Par ailleurs, on s'attend aussi à ce qu'on ait quelques détails, peut-être pas tous, sur la révision des programmes. Donc, on en a entendu parler abondamment, notamment des syndicats de la fonction publique là, au fédéral, qui disent qu'on va remettre en question les services publics, alors qu'en fait, on parle d'une toute petite réduction. Et en fait, c'est même pas une réduction des dépenses, c'est une réduction, encore là, de la croissance projetée. Parce qu'évidemment, quand on parle de 10 % de réduction, ça a l'air énorme, mais il faut savoir que c'est 10 % sur une petite partie du budget fédéral, en fait 80 milliards. Et puis, comme on va faire ces coupures-là à travers le temps, sur 3 ans, en fait, c'est des coupures sur ce qu'on avait prévu de dépenser. Puis finalement, le budget au total du gouvernement fédéral va passer de 250 milliards à 258 milliards en 3 ans. Donc, il y a encore là, une augmentation finalement des dépenses.
Mais au-delà de ces coupures, il y en a qui disent que c'est un espèce de moment de vérité pour les conservateurs, que dans le fond, il y aura même une révolution en introduisant des changements dans les structures, dans les façons de faire, dans les relations. Est-ce que vous, à la CSQ, ça vous inquiète le prochain budget fédéral?
Nous, ce qui nous inquiète beaucoup dans le prochain budget fédéral, c'est les rumeurs qui courent sur les régimes de pension de vieillesse. Nous souhaitons très vivement...
D'augmenter l'âge à 67 ans?
Bien, c'est la rumeur qui court. Ouais. Il n'y a rien de confirmé, mais nous, ce que nous souhaitons vivement, c'est que le gouvernement donne l'assurance qu'il ne dégradera pas les régimes de pension de vieillesse. Il y a l'actuaire en chef du Canada puis le directeur parlementaire du budget qui ont déjà indiqué que le régime qui existe est très viable, même si son coût va augmenter. S'il y a quelque chose à faire du côté du fédéral, c'est de prendre les moyens pour rendre plus simple et plus efficace l'octroi des suppléments de revenus garantis aux personnes qui y ont droit et qui ne l'obtiennent pas pour toutes sortes de raisons présentement.
Vous avez parlé de rumeurs. D'ailleurs, on a un peu de difficulté à cerner le message des conservateurs en ce moment. Le ministre parfois dit non, les coupures ne seront pas aussi importantes, ce sera un budget raisonnable. D'un autre côté, bon, il y a des rumeurs de coupures assez importantes. Comment vous l'analysez, le message en ce moment?
Moi, je vous citerai Mme Chetty, la firme Fish l'agence de notation qui a dit « Vous n'êtes pas obligé d'avaler une pilule amère si vous n'êtes pas malade. » La situation budgétaire du Canada, 2 % du PIB comme déficit, alors que les Européens ont au-dessus de 6 % les Britanniques, les Américains, au-delà de 10 % de déficit en proportion du PIB. Bon, on est dans une situation relativement confortable. Il y a un plan de retour à l'équilibre budgétaire à petite vitesse. C'est tout à fait convenable.
On n'est pas dans la même situation, effectivement, que bien des pays d'Europe. Ouais. En même temps, effectivement, comme je l'expliquais, hein, ce qu'on prévoit comme compression, entre guillemets, on parle justement des fois de 10 % ça a l'air énorme. J'ai l'impression qu'on ne s'adresse pas nécessairement au même auditoire, en quelque sorte.
Ah oui.
Peut-être que les conservateurs ont besoin, envers leur base, de montrer qu'ils vont effectivement faire un travail là, sérieux et volontaire. Puis en même temps, quand on regarde, finalement, on décortique les chiffres et qu'on se méfie un peu de cette rumeur, on se rend compte que c'est, somme toute, une augmentation des dépenses, mais moins rapide que prévu. Par ailleurs, effectivement, on parle de l'âge de la retraite. Évidemment, pour les gens qui vont prendre leur retraite là, rapidement, ça ne change rien. Mais s'il y a effectivement une augmentation de l'âge de la retraite à 67 ans, bien, en fait, moi, ça me rassure peut-être dans ma génération parce que ça signifie que mes impôts ne vont pas augmenter pour assurer finalement la survie d'un régime comme la sécurité de la vieillesse pour que moi aussi ou mes enfants y aient droit. Fait que finalement, on indexe, hein, par exemple, les prestations de retraite de la sécurité de la vieillesse. Il faut aussi indexer finalement l'âge de la retraite, sachant qu'on vit beaucoup plus vieux. Ouais. En fait, l'espérance de vie a augmenté énormément.
Mais si on voulait faire des économies, le gouvernement pourrait annoncer qu'il renonce à l'achat des chasseurs F-35, qui sont une quincaillerie militaire.
Mais ça aussi, il y a une rumeur là-dessus, d'ailleurs.
Douteuse quant à son efficacité, qui n'est pas au point et dont les coûts sont en train d'exploser. Alors, un gouvernement qui nous parle d'économies sur le dos des personnes âgées et qui, d'autre part, engage des milliards dans des quincailleries militaires, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable.
Pas sur le dos des personnes âgées, parce que ça touche pas les gens maintenant, ça va toucher les générations suivantes. Et finalement, puis un peu comme au Québec, quand on parle de régime volontaire d'épargne retraite, on dirait que ce sont des budgets un peu tournés vers les générations, les aînés. C'est pas nécessairement mauvais d'un point de vue électoral, j'imagine. Moi, j'espère que les gouvernements vont penser un peu à l'équité intergénérationnelle, notamment en faisant un effort de réduction de dette.
Alors, on verra bien. Youri Chassin et Pierre Bond, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci beaucoup.